Bonne matinée avec Europe 1. L'actualité de ce samedi, Émilie Bonneau, Bernard Porrette.
Émilie, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
À la une.
Bourges, centre de la France, est lieu de rendez-vous des Gilets jaunes aujourd'hui. 9e samedi de mobilisation d'affilée à Paris. Les manifestants sont attendus à la Défense, notamment, et les commerçants ont tout prévu. À Strasbourg, les archives collectent objets et lettres d'hommage aux victimes de l'attentat de décembre. Et puis le hand, finalement, Nicolas Karabatic va bien participer au Mondial en Allemagne.
La ville de Bourges donc se prépare ce matin à l'arrivée des Gilets jaunes.
Oui, avec le centre-ville bouclé, interdit à toute manifestation par la préfecture, les orodateurs ont été retirés par précaution, musées et jardins publics sont fermés. Car ils sont nombreux à avoir fait savoir sur les réseaux sociaux qu'ils allaient venir et les Gilets jaunes de Bourges s'organisent pour les accueillir. Sur place, Jean-Jacques Héry pour Europe 1.
Trouver l'emplacement des Gilets jaunes est très simple, il suffit de se laisser guider par le bruit des disqueuses. Deux hommes sont penchés sur une poubelle, ils découpent le plastique.
C'est un espèce de bouclier qu'on a fabriqué avec des capots de poubelle pour éviter les violences policières, on va dire. Admettons qu'on nous flashball ou qu'on nous gaze, on essaiera de se défendre.
Autour d'un feu, on discute, on refait le monde et on attend ce samedi avec impatience.
Si on regarde sur Facebook, ils sont entre 2000 et 2500 à vouloir venir de Clermont, du Nord, de partout. On va les accueillir.
Avec café, une petite collation.
Simplement pour demander au gouvernement de changer sa méthode de faire envers les retraités, envers les salariés, parce que Macron, il a dit que ça ruisselle, ben pour le moment, ça ruisselle pas.
Les Gilets jaunes de Bourges insistent sur le pacifisme de leur démarche. Le défilé est prévu sur les boulevards extérieurs de la ville et nous respecterons l'interdiction d'aller dans le centre, disent-ils.
Il y a des gens qui viennent pour casser, mais c'est pas le mouvement des Gilets jaunes.
C'est pas prêt non plus de s'essouffler comme ça, parce que c'est des revendications profondes. Peu importe les alternances, qu'elles soient à droite, qu'elles soient à gauche, on a l'impression qu'il y a toujours la même politique qui est menée par un pouvoir aveugle, le pouvoir de la finance.
Effectivement, la plupart ici pensent déjà à une 10e journée d'action samedi prochain. Bourges, Jean-Jacques Héry, Europe 1.
Les Gilets jaunes attendus aussi à Bordeaux, Marseille, Toulouse, Nantes et à Paris, avec parmi les points de rendez-vous, la Défense en pleine période de solde. Maud Descamps.
Dans cette grande enseigne d'articles de sport, Amandine et ses équipes se préparent avant l'ouverture des portes. Des équipes prêtes à réagir en cas d'intrusion des Gilets jaunes dans le magasin.
On est préparé, les équipes sont au courant. Notre mot d'ordre, c'est de continuer à s'occuper de la clientèle. C'est un des week-ends les plus importants, surtout là en début d'année, ça nous permettrait de bien commencer l'année.
À l'étage du dessus, même consigne pour les équipes de Charline, responsable d'une soixantaine de magasins de chaussures en région parisienne, dont un ici aux Quatre Temps.
Il y a déjà une forte sécurité de la part du centre qui nous permet d'être un petit peu protégés. Maintenant, oui, les équipes sont briefées, que ce soit ici à la Défense ou sur d'autres centres commerciaux. Aujourd'hui, on leur demande d'être extrêmement vigilants. Si on sent que ça chauffe, on ferme nos magasins.
Dans son enseigne, les soldes ont moins bien commencé que l'an dernier. Moins 5% de chiffre d'affaires, moins 7% de fréquentation. Alors cette année, la responsable n'a pas embauché de CDD pour la période des soldes.
Les gilets jaunes génèrent une baisse de trafic. Là, typiquement sur le magasin de la Défense, où j'aurais pu embaucher 3 personnes, je ne le fais pas, tout simplement parce que le trafic est à la baisse.
Il y a donc beaucoup d'attentes du côté de Charline et des autres commerçants, car tout se joue les 5 premiers jours des soldes. Et ce qui est perdu ne se rattrape jamais.
Maud Descamps et les autorités s'attendent à un regain de participation des Gilets jaunes aujourd'hui. Le dispositif de sécurité est donc renforcé par rapport au week-end dernier. 80 000 policiers et gendarmes seront sur le terrain. C'est autant qu'avant les fêtes.
Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron finit d'écrire sa lettre aux Français qui sera publiée après-demain dans la presse.
Oui, avant de lancer mardi le grand débat national, le chef de l'État a attendu également à Aix-la-Chapelle dans 10 jours. Un nouveau traité franco-allemand sera signé pour l'occasion. Et c'est une information Europe 1. Ce texte doit favoriser encore plus l'intégration européenne, loin de certaines revendications actuelles d'une sortie de l'Union. Jean-Rémy Baudeau.
L'idée, c'est d'aller de l'avant pour les 20 à 30 prochaines années, explique-t-on à l'Élysée. Ce texte relativement court, cela fait un an que Paris et Berlin le négocient. Un texte très politique, de 6 chapitres, des questions de sécurité au climat, en passant par le développement économique. Parmi les points les plus importants, il y a l'article 4 du chapitre 2 qui prévoit en somme de repenser le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité de 1963. Les dernières versions du texte que nous avons pu consulter parlent d'un nouvel organe politique pour conduire des engagements communs. Concrètement, au-delà de l'assistance militaire mutuelle, il y aura désormais des coopérations renforcées dans l'armement. Par exemple, pour développer des chars et les avions du futur. C'est un pas de plus dans la coopération militaire en Europe voulue par le président Macron, et ce, malgré les réticences côté allemand. À Berlin, il se murmure que ce sont les positions françaises qui l'ont emporté. L'Élysée balaye d'avance les critiques des plus eurosceptiques sur le risque de perte de souveraineté. Avec ce nouveau traité, ceux qui n'aiment pas l'Europe seront chagrinés, tranche un conseiller du président.
Jean-Rémy Bodo avec Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1. Emmanuel Macron, par ailleurs, critiqué ce matin par ses opposants pour avoir loué le sens de l'effort hier face au boulanger invité à la galette de l'Élysée.
Dans un instant, la suite du journal d'Émilie Bodo avec ce fait divers assez étonnant aux États-Unis. Une adolescente de 13 ans est parvenue à s'échapper, saine et sauve. Elle s'est échappée de sa geôle, là où la tenait son ravisseur depuis 3 mois après son enlèvement. Voilà ce que c'est que de ne pas vouloir lire le texte exactement qui m'est fourni et de vouloir improviser. Ça m'apprendra.
Europe 1, il est 8h06. Suite de l'actu avec Émilie Bonneau et Bernard Poiret.
Émilie, aux États-Unis, en quelques heures, elle est devenue l'héroïne au moins de la presse. C'est une adolescente de 13 ans. Elle est parvenue à s'évader 3 mois après avoir été enlevée.
Oui, dans la région des Grands Lacs. Le 15 octobre, elle disparaît, ses parents sont tués et après de nombreuses battues, les enquêteurs désespèrent de la retrouver vivante. Jusqu'à hier, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Xavier Yvon.
Jeanne Nutter est en train de promener son chien dans son coin reculé du Wisconsin lorsqu'une jeune fille s'approche d'elle, l'air hagard. Elle est sale et porte des chaussures trop grandes. Elle avait juste un pantalon et un sweatshirt, raconte-t-elle. Pas de gants, pas de bonnet, dans un froid pareil. Elle a juste dit « Je suis perdue, je ne sais pas où je suis ». Jeanne Nutter la conduit alors chez les voisins les plus proches qui reconnaissent immédiatement le visage affiché partout depuis 3 mois dans la région. C'est Jamie Kloss, 13 ans, porté disparu après le meurtre de ses parents. C'est comme si j'avais vu un fantôme, raconte l'un des voisins. J'étais persuadé qu'elle était morte. Les secours arrivent, la jeune fille donne le nom de son agresseur. Elle raconte qu'il a tué son père et sa mère avant de l'enlever. Elle décrit sa voiture. L'homme de 21 ans est arrêté un peu plus tard alors qu'il est en train de la chercher. Après 87 jours de captivité, Jamie a réussi à s'échapper quand il s'est absenté. C'est incroyable la volonté de survie de cette gamine de 13 ans, lâche le shérif local, soulagé, mais qui a encore beaucoup de questions. Le ravisseur n'avait aucun lien avec la famille de Jamie, alors pourquoi l'a-t-il ciblée elle ? Mystère, il avait en tout cas parfaitement planifié son acte, allant jusqu'à se raser la tête pour éviter de laisser le moindre cheveu sur la scène de crime. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Les États-Unis où le shutdown entame son 22e jour, c'est un record. Et pour la première fois, 800 000 fonctionnaires fédéraux n'ont pas été payés hier. Donald Trump veut toujours, contre l'avis des démocrates, financer un mur à la frontière avec le Mexique. Et puis ce matin, sur Europe 1, on vous présente cette initiative à Strasbourg. Les archives de la ville se mobilisent pour conserver les messages d'hommage aux 5 morts de l'attentat du marché de Noël il y a un mois, alors que chaque jour, des dizaines d'objets continuent d'être déposés sur les lieux de recueillement du centre-ville. Notre correspondant Arthur Elbaché.
Ici, autour de nous, il y a des archives précieuses, des documents du 14e siècle. Il y a aussi ce dessin d'enfant, un sapin de Noël, deux gros cœurs rouges et au feutre bleu, Strasbourg, mon amour. Ce papier, retrouvé entre deux bougies sur un trottoir, là où le terroriste a frappé le mois dernier, devient une archive grâce au maître relieur-restaurateur Bernard Santoni.
Alors le petit grattoir, c'est une spatule qui me sert à enlever les reliefs dus au cire de bougie. Et la brosse, c'est une brosse en poils de chèvre, les poils très doux qui me permettent d'enlever les poussières sans altérer ou sans avoir de contact trop brutal avec les couleurs et les pigments. Mais le traitement est fait avec la même délicatesse, si je puis dire, qu'avec les archives anciennes.
Une centaine de documents a déjà été prélevés fin décembre. D'autres le seront dans les jours qui viennent, dit Franck Burkel, des archives municipales de Strasbourg.
Ça peut effectivement intéresser des chercheurs, des sociologues. On a déjà été sollicité, notamment par une chercheuse allemande, qui s'intéresse beaucoup à la gestion du monde du deuil par rapport à ces attentats, à la résilience, ce genre de phénomènes psychologiques. Et donc effectivement, ces documents constituent les témoignages physiques d'une émotion.
Tous ces documents seront consultables sur place ou en ligne à partir de l'été prochain. Strasbourg, Arthur Elbaché, Europe 1.
8h11, c'est l'heure du journal des sports d'Émilie Bonneau.
Ce journal commence avec le handball. Normalement, Émilie, il aurait dû regarder le mondial de hand à la télévision, mais Nicolas Karabatic, pourtant, sera tout à l'heure en Allemagne.
Oui, pour un premier entraînement demain et peut-être même un premier match mardi face à l'Allemagne, le patron des experts disputerait alors son 8e mondial, inespéré encore à la mi-octobre après son opération du pied. Mais il s'est remis beaucoup plus vite que prévu et cela n'a été annoncé qu'hier soir après la courte victoire face au Brésil, 24-22. Ce soir, deuxième adversaire, la Serbie, pays d'origine de la maman des frères Karabatic, le cadet Lucas, est prêt pour ce match très spécial.
C'est des petits détails qui font que tu te rends compte que c'est un match particulier. Quand tu, voilà, l'adversaire parle une langue et que toi tu la comprends, alors que tu es dans l'équipe et dans le pays d'en face, ben voilà, c'est des petits détails qui font que tu te rends compte que c'est un match un peu particulier. Mais voilà, comme je disais, ça c'est des choses auxquelles je me suis habitué et maintenant voilà, ça me déstabilise pas entre guillemets.
Lucas Karabatic avec Christophe Lamar, France-Serbie ce soir, ce sera à partir de 20h30 et à suivre en fil rouge sur Europe 1.
Le football, Lille consolide sa place de dauphin de Paris.
Oui, avec une très belle victoire hier soir 3-1 à Caen, les Lillois ont désormais 4 points d'avance sur le 3e Lyon qui s'est contenté d'un match nul 1 partout face à Reims. Cet après-midi 17h, le Paris Saint-Germain joue à Amiens. Peut-être sans Neymar ni Kylian Mbappé, tous les deux très fatigués selon leur entraîneur Thomas Tuchel, content de retrouver le terrain après l'élimination en Coupe de la Ligue.
Tout le monde était un peu triste, c'est normal après une défaite. Et si tu perds un match, c'est toujours dur et on a senti tout le monde sentir un peu triste hier. Mais c'est une bonne chose de jouer encore pour oublier ce match contre Guingamp.
Thomas Tuchel au micro Europe 1 de Simon Rubin et la suite de la 20e journée de Ligue 1, c'est également ce soir à 20h. Guingamp, Saint-Etienne et Nice-Bordeaux.
Merci beaucoup, le journal de 8h. C'était avec Émilie Bonneau. Émilie revient tout à l'heure à 9h.
À tout à l'heure,
Émilie.